Le cours de l'or à 4381 dollars le lundi 20 octobre dernier. Pic local ou pic cyclique? Chers amis, suivez chaque matin mes analyses publiées sur le profil Swissquote du site TradingView, une analyse par jour sur toutes les classes d'actifs. Et enfin, je vous rappelle que le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex. Alors, oui donc, l'inertie haussière de l'or et l'argent. Cette phase de hausse hyper linéaire qui avait démarré quelque part en août et qui a topé donc le 20 octobre dernier, je dis dans son momentum linéaire, je ne dis pas la tendance de fond, attention, c'est la question que je pose, d'ailleurs on va tout passer en revue, mais le rythme observé de cette tendance qui était parfaitement stable dans son momentum bullish s'est cassé le 20 octobre puisqu'il y a eu une phase de retracement. Il était temps, c'est logique, les arbres ne montent pas au ciel, tôt ou tard, même une tendance haussière, ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité d'achat, bien sûr. Tôt ou tard, le marché entre en retracement. Mais dès lors qu'intervient une rupture de momentum, j'entends par momentum la dérivée première, le taux de croissance, la vitesse. Voilà. Vous avez toujours dans un marché, vous avez une tendance, donc l'or et l'argent, depuis plusieurs mois, même années, c'est une tendance haussière. Donc ça, c'est la direction. Et puis, il y a le momentum, l'angle. La tendance haussière, elle peut être plate, elle peut être à 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés, 95, je déconne, ça va pas revenir dans le passé. Bon, donc, c'est cet angle qui a baissé avec l'engagement d'une première phase de retracement. Alors, attention, il y a un historique hyper chargé du cours de l'or. On a beaucoup d'historiques. L'or a enchaîné, mais il est temps parfois d'aller sur vos graphiques de long terme. Prenez le temps ce matin, là, ou quand vous voulez. Chargez sur votre application le graphique monthly du cours de l'or depuis 50 ans. Mettez-vous en échelle logarithmique pour voir quelque chose, sinon tout est écrasé en arithmétique. Bon, vous allez voir que l'or a eu des grandes phases d'expansion, parfois au-delà d'une décennie, et puis des phases de retracement, des longs ranges. Amusez-vous et allez voir quelle était la structure de la fin de la hausse. Mettez-vous en bougie mensuelle ou même en bougie weekly et allez voir en 2011, allez voir dans le passé, quand les grandes phases bullish pluriannuelles se terminaient, allez voir qu'est-ce qui donnait le signal, à quoi ça ressemblait la bougie de la fin de la hausse. Ou fallait-il une structure? Eh bien oui, c'est ça qu'il fallait. Si vous prenez par exemple, il y a eu une grande phase de hausse entre 1998 et 2011. Ça ne s'est pas terminé en un jour. Il y a eu donc 12 ans de hausse. Et puis, il y a eu un an et demi d'orange, et on est sorti par le bas, et là, 3 ans de bear market. Les anglo-saxons disent « distribution area », une zone de distribution. Donc, au stade actuel, naturellement, il n'y a pas de zone de distribution sur le gold. Et puis, alors, un marché est bullish, il y a plusieurs étapes en analyse technique pour dire que la tendance de fond se termine. Déjà, il faut atteindre des objectifs. Des résistances, là pour le coup théoriques, puisqu'on est sur les records historiques. Ensuite, il y a effectivement avoir des divergences ou construire une phase latérale. Cette phase latérale peut être une phase de distribution, d'accumulation. Et puis il y a ensuite les breakouts. Et effectivement, en 2011, vous avez une grande phase d'avancée, une phase de distribution d'un an et demi, et on a cassé le support, et il y a eu 3 ans de bear market, là c'était sûr que c'était fini. Alors bien sûr, il peut y avoir des divergences, des signaux bien précis au-delà de l'action des prix. Par exemple, vous pouvez croiser l'action des prix et les flux institutionnels. Et si forcément, vous aviez plusieurs mois consécutifs de tendance haussière avec des inflows et que tout d'un coup, vous commencez à avoir des séances de retracement, des semaines de retracement et que vous avez des outflows, des sorties de capitaux, par exemple, sur les ETF Gold US, là, vous avez un combo quand même, bon, on a peut-être fait le top cyclique. C'est ça la question que je pose. Top local ou top cyclique? Si c'est un top local. Un top local, c'est-à-dire qu'en fait, on marque une pause après avoir atteint 4380 dollars, on va faire un range et puis ça repartira vers de nouveaux records. Si c'est un top cyclique, c'est qu'on ne redépassera pas 4380 dollars avant des années. ou au moins des mois. D'accord ? Donc pour répondre à cette question, je passe en revue déjà tous les fondamentaux qui ont nourri cette tendance haussière de l'or, et puis je pose la question de leur diagnostic. On va pas y passer 30 ans, on va essayer de faire court, mais quand même, on regarde. On va regarder les principaux facteurs. Si vous voulez, vous ne pouvez pas affirmer que l'or a fait un top cyclique si, par exemple, le dollar reste extrêmement faible. Mais si, par exemple, le dollar devait, lui, valider un renversement haussier, casser des résistances, et là, on fait pencher la balance vers le top cyclique plus que le top local. Cette question, elle est majeure, parce que la plupart d'entre nous avons en portefeuille un positionnement sur le gold. Alors ça peut être de l'or physique, ça peut être des ETF, ça peut être plein de choses. Si c'est un top cyclique, ça peut être pas mal peut-être de prendre ses profits. Si c'est un top local, il n'y a rien à faire. Et même si c'est un top local, peut-être que c'est une opportunité pour en racheter davantage et viser plus haut. Vous comprenez donc l'intérêt de se poser cette question. Donc on fait ça de manière structurée. Le plan, vous l'avez, il est dans la description de la vidéo, il est dans la barre de temps. L'analyse technique, les fondamentaux, le diagnostic des fondamentaux, les données alternatives et aussi, bien sûr, un mot sur l'argent qui lui, donc, a rejoint son record historique, qui fait de la vol maintenant autour. Là aussi, on ira voir dans le passé comment se terminaient les grandes phases bullish de l'argent. Qu'est-ce qu'il indiquait ? Et encore une fois, il ne faut pas se précipiter pour qualifier ce top. Entre local et cyclique, pour le moment, il n'y a pas assez d'arguments. Mais la réflexion commence.
Alors, le plan, il y a plusieurs façons de le voir. Je vous l'ai donné plus ou moins à l'oral. Là, il est mis à l'écrit de manière plus précise. Et puis, vous pouvez aller naviguer par ici, dans la barre de temps, où vous pouvez vous balader. Mais bon, restez avec moi du début jusqu'à la fin, on se met bien. Nous prenons notre temps. Nous prenons notre temps pour parler du gold. Le gold, l'argent, les métaux précieux, même que la plupart d'entre vous y êtes exposés. Et donc, je parle tout d'abord d'une rupture de momentum. Attention, je ne parle pas d'une rupture de tendance de fond, parce que il est bien trop tôt, et puis ce serait faux, et les arguments ne sont pas suffisants pour dire que l'or a fait un top majeur. Mais il y a eu effectivement une rupture de momentum. Alors de quoi parlons-nous ? Vous êtes ici sur le graphique de l'or, et par rupture de momentum, j'entends donc que l'or a proposé, donc, d'ailleurs comme il l'avait proposé ici, donc vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles, en données journalières, autant pour moi. Ici vous avez par exemple une phase linéaire, un range, un long range préparatoire, un range qui s'est construit de avril à fin août, et puis là, vous avez eu à nouveau une phase linéaire, et donc là, constatez comme moi que donc le mardi 21 octobre, donc le lundi 20, ce fut le sommet à 4380$, et donc là, forcément, cette séance casse ce momentum. Vous voyez bien qu'ici, c'est une séance qui a avalé les précédentes, et d'ailleurs, elle a donné le point de départ d'un retracement. Alors, la question désormais à Schkecher, chacun la chiffre comme il le veut, la question est de savoir, ce rejet, cette rupture de momentum, et on le voit très bien par exemple ici avec l'indicateur technique RSI, qui pendant toute cette phase linéaire faisait un range au-dessus de 70 et qu'on est sorti par le bas, cette rupture de momentum permet-elle de dire que le gold a fait un top cyclique ? Un top cyclique, c'est quoi ? C'est par exemple ça. Voilà. Top cyclique, c'est ce qui avait été fait en août 2011, après une décennie de hausse. Et d'ailleurs, notez bien que vous aviez eu une phase de distribution, donc la phase de distribution avait commencé par une semaine de rupture, une rupture de momentum, un long range, une cassure de support, et là, le signal de vente était donné en 2013, et derrière, vous avez eu 3 ans de bear market. Donc, l'idée, c'est ça. Il y a donc deux hypothèses. Soit, le 20 octobre, l'or a marqué un top local, et ça repart, soit le début d'une phase de distribution. Et vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est la question qui va nous occuper dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Rupture de momentum, d'ailleurs, qui au passage fut observée au même moment sur l'argent. Quitte au passage, l'argent donc temporise après avoir rejoint
voyez bien, le sommet historique de 1979, qui est le même sommet historique que 2011, et qui est donc le même sommet historique que 2025. Donc 14 ans après. 14 ans après, et là, un peu plus. Même beaucoup plus. Bon, ok. Donc déjà, alors sur l'argent, la rupture de momentum est quand même un peu plus ample, puisque là, vous avez eu donc une phase de hausse linéaire, et une séance donne, donc c'était même dès le vendredi 17 octobre, le retracement. Et puis là, donc ça repart, ça tient les supports. Donc première chose, une rupture de momentum, c'est le début de notre observation. Si vous voulez, pour déterminer s'il s'agit d'un top local ou d'un top cyclique, il faut prendre les choses dans le bon sens. Avec le bon sens et dans le bon sens. Avec le bon sens, c'est de partir de ce qui a permis d'avoir cette tendance haussière. Et ce sont des fondamentaux. Donc, j'ai rassemblé ici, sur ce slide, les données chiffrées qui sont publiques, qui sont communiquées notamment par le Conseil mondial de l'or, le World Gold Council, et qui vous donne les datas du troisième trimestre 2025. Alors pourquoi j'ai voulu travailler le troisième trimestre 2025? Parce que le troisième trimestre 2025 a vu cette hausse linéaire. Donc à partir du moment où vous avez cette hausse linéaire ici sur le cours de l'or, et vous aviez eu ici cette hausse linéaire, les séances se ressemblaient ici pendant 3 mois, l'idée de savoir quels étaient les fondamentaux derrière. Ça tombe bien, les données sont publiques. Donc ces données sont ici sous vos yeux. Au troisième trimestre, vous avez eu donc une envolée de la demande financière d'or, la demande financière aux financières à travers les ETF américains, les ETF européens, les ETF asiatiques, et vous avez eu une envolée de la demande d'or des banques centrales. Au contraire, en volume, moins 10% de la demande d'or en joaillerie. Et c'est un peu différent pour la demande technologie ou la demande industrielle de l'industrie technologique qui utilise des métaux précieux, l'or et l'argent, mais globalement ici les datas sont stables. Donc, la phase linéaire du Q3, celle qui a permis d'atteindre un nouveau record, celle qui a permis de rejoindre les 4380$, s'est construite sur quoi? Sur la demande financière aux financières via les ETF. Il faut voir ensuite, il faut aller voir dans les détails de quelle zone géographique et la demande des banques centrales. Alors, tout de suite, là, on avance un peu dans la réflexion à la question de savoir si l'or, ici, donc, nous colle un top cyclique ou un top local. La question est de savoir, est-ce que ces deux principaux moteurs de la hausse, que sont la demande des banques centrales et la demande des ETF, est-elle en train de fatiguer? Observez-vous des banques centrales qui arrête d'acheter de l'or. Observons-nous des flux qui commencent à quitter les ETF Gold. Forcément, c'est la première chose qu'il faut regarder. Alors, il y a d'autres facteurs. Nous allons les regarder. Il y a d'autres facteurs qui comptent. Mais retenez que ce sont les deux principaux. Ce n'est pas la demande de l'industrie de la joaillerie. Pas sur ce push final. Il y a vraiment en fait un rôle de la demande financière ou financière d'or. Les choses sont plus complexes. Et j'ai voulu ici rassembler ce qui me semble être l'intégralité des facteurs qui ont poussé les métaux précieux plus haut. Ce qu'on va faire en fait, c'est que nous allons passer en revue ce tableau et aller pour chacun d'eux regarder le diagnostic. Naturellement, vous ne pouvez pas arriver face à un tableau comme ça multifacteur et dire la ligne, le facteur numéro 1 c'est haussier, le facteur numéro 2 c'est baissier. Non. La bourse est pleine de nuances. Les fondamentaux sont pleins de nuances. Et les changements de trajectoire, le basculement d'un facteur bullish à un facteur bearish, se fait très rarement brutalement en un jour. Par contre, on peut voir les choses se retourner doucement. Et c'est ça qu'il faut commencer à regarder. Le premier facteur, je vous ai donné les chiffres sur le slide précédent, c'est la demande financière ou financière d'or. D'ailleurs, au passage, pour moi, c'est le moment de vous rappeler, donc, ici, à l'aide des données du Conseil mondial de l'or, c'est très parlant. Vous avez ici, donc, trimestre après trimestre, ce qui a poussé l'or à la hausse. La demande de l'industrie de la joaillerie, des bijoux, quoi. La demande en technologie,
donc l'industrie technologique, les puces, les microprocesseurs, etc., les semi-conducteurs, la demande d'investissement, la demande des banques centrales. Eh bien, si vous observez les quatre derniers trimestres, troisième trimestre 2025, deuxième trimestre 2025, premier trimestre 2025, dernier trimestre 2024, vous avez deux facteurs qui dominent. Vous les connaissez, je viens de vous les donner, et là, c'est représenté visuellement. Oui, la demande financière ou financière écrase tout, les ETF. Ces bons vieux ETF, c'est la clé. C'est la clé. On ne peut pas construire un argumentaire sur cette histoire de savoir si l'or a fait un top local ou un top cyclique sans croiser l'action des prix avec les données des ETF. De même, les banques centrales. Le problème des banques centrales, c'est que les données ont beaucoup de retard. Par exemple, je suis toujours dans l'attente là, des données du troisième trimestre. Vous imaginez, c'est un problème. Alors parfois, elles communiquent, via des articles de presse, mais ces données sont en retard. Donc on peut quand même globalement considérer que la demande des banques centrales a un rôle pour la tendance haussière de fond. Ce sera toujours un amortisseur. Alors justement, ces ETF, eh bien là, c'est passionnant. Regardez, je vous ai montré ici le Q3, c'était une tendance haussière linéaire. Observez toute zone géographique confondue sur le troisième trimestre. Vous avez très peu de lignes sous zéro. Qu'est-ce que c'est que ça? En bleu foncé, c'est la demande des ETF d'Amérique du Nord. En vert, l'Europe. En rose, l'Asie. En bleu, les autres. Regardez sur depuis le début de l'année, vous avez quasiment chaque semaine, puisque cet histogramme est hebdomadaire, chaque semaine, les trois zones géographiques majeures, Asie, Europe, Amérique du Nord. Alors, je parle pour la demande des ETF. Je ne dis pas que les autres pays ne sont pas majeurs. Je vous montre, écoutez, regardez. Là, vous avez l'asset under management sur les ETF hors du monde. Bon, l'Amérique du Nord, c'est 270 milliards. L'Europe, 190. L'Asie, 50 milliards. Le reste, c'est 9 milliards. Donc, quand je dis les autres ne comptent pas, c'est parce que dans les faits, ça ne compte pas. Ce n'est pas un jugement moral, humain, etc. C'est juste, ils pèsent rien du tout dans les ETF Gold. Donc, on s'en fiche complètement. Ça peut changer. L'Asie est en train de gagner en poids. Alors, donc, finalement, on pourrait réduire l'analyse de l'or à ça. Une phase linéaire de hausse appuyée par les ETF qui ont avancé ensemble en Asie, en Europe. Et donc là, regardez, depuis donc 10 jours, on a une petite phase de retracement. Et qu'est-ce qu'on a sur les ETF? Eh bien, on a eu des outflows massifs en Europe, mais pas aux États-Unis et pas en Asie. En clair. Je vais dire une chose. Tant que l'or ne casse pas de support majeur, et tant que vous n'avez pas au même moment des puissants outflows des ETF US, pourquoi les ETF US? Parce que je vous remontre, en termes d'AUM, ça pèse 270 milliards. Ils sont premiers à 7 under management sur les ETF Gold. C'est 270 milliards. L'Europe n'est qu'à 190, l'Asie n'est qu'à 50. L'Europe et l'Asie n'atteignent pas l'Amérique du Nord. La clé, ce sont les ETF Gold US. En clair, on ne peut pas argumenter pour un top cyclique tant que vous n'avez pas au minimum une phase de distribution. Donc, comme par exemple ici en 2011, une longue phase de distribution de cassure support, ou au moins une cassure de support. Mais le premier support majeur, c'est 3 400 $. La partie haute de ce petit range, et ce fut le record historique de 1980, mais ajusté de l'inflation. Ça, je vous l'avais déjà montré. Et en même temps, il faudrait observer plusieurs semaines consécutives d'outflow de cet histogramme bleu foncé, qui représente en fait les ETF US. On met Amérique du Nord, mais vous comprenez bien qu'en Amérique du Nord, les US pèsent plus que Canada. Donc, les US. Ces datas, il y a un décalage de 4-5 jours pour leur mise à jour. Ça, je vais regarder ça tous les jours. Enfin, chaque semaine. Alors, il y a plein d'autres facteurs, je suis déjà trop long. Ensuite, vous avez donc le dollar. Vous ne pouvez pas défendre un top cyclique de l'or s'il n'y a pas un renversement haussier du dollar. Je vous montre le dollar. Où est-ce qu'il en est? Oui, le dollar, il y a peut-être le début de quelque chose. Le dollar, ici, fin de sa phase de baisse, un range, un breakout, des divergences.
Là, il y a un range. On n'a pas fait breakout. Donc, si vous voulez, tant que le DXY se maintient sous cette zone, alors par contre, si vous avez ces prochaines semaines un breakout haussier du dollar et l'or qui continue de retracer, il va falloir quand même se poser les questions. Il y a une corrélation inversée historique entre la tendance de fond du dollar et le cours de l'or. D'ailleurs, lorsque le dollar chute, les institutionnels américains vont vers les ETF gold. C'est une façon de se couvrir. Alors bien sûr, les taux d'intérêt, alors la corrélation inversée, les taux d'intérêt réels, les taux d'intérêt nominaux. Bon, alors, et perspective de politique monétaire de la Banque centrale. Il y a plusieurs choses. Vous avez tout d'abord, la Fed n'a pas pu être claire sur le cycle à venir des taux d'intérêt. Ils ont fait une baisse de taux isolée. La Fed n'a pas pu s'engager sur un cycle baissier des taux d'intérêt qu'aurait nourri l'or. Au contraire, la probabilité d'un statu quo en décembre et même maintenant à 30%, le taux obligataire américain à 2 ans tient ce support. Tant que c'est le shutdown, tant que vous n'avez pas de publication des statistiques américaines, il y a un doute. Et derrière, ça peut être donc un facteur de pression pour le cours de l'or. L'aspect ensuite physique et technologique, vous avez vu que l'impact a été bearish sur le dernier trimestre, neutre pour la demande de technologie. Ce facteur est neutre. Les achats d'or par les banques centrales, ça restera toujours bullish. Ce sera un amortisseur, quoi qu'il arrive. Ce sera bullish. Et puis l'aspect géopolitique, alors oui, le Moyen-Orient, oui, etc. Soyons clairs. Tant qu'il n'y a pas la perspective d'un cessez-le-feu, d'une paix en Ukraine, la géopolitique restera un facteur bullish. Donc, comprenez que parler d'un top cyclique pour l'or, il faudrait que ça se retourne sur les ETF, que le dollar cache une résistance, que les banques centrales cessent d'acheter ou moins, et qu'on ait une super nouvelle sur la guerre en Ukraine. Pour l'instant, ça on l'a pas, ça peut-être, et ça on l'a pas, mais il faut commencer à surveiller. Vous voyez que pour l'instant, vous avez compris, si je devais maintenant répondre à la question de cette vidéo, parce qu'à un moment ou à un autre, je pose des questions, peut-être que je serai capable de répondre. Pour l'instant, je suis obligé de dire top local. Si je vous dis top cyclique, c'est que j'ai un biais. Mais un biais, c'est pas de l'analyse. Donc, pour l'instant, je dois dire top local. Alors, d'un point de vue technique, pour affirmer qu'un marché a atteint un top cyclique d'un top local, vous avez compris que tout d'abord, il faut atteindre des résistances, valider une phase de distribution par la cassure d'un support. Et regardez aussi l'aspect relatif, notamment le ratio cuivre-gold, ce qui est important à regarder. Alors, on regarde ça, je reviens sur le gold ici, je me remets en échelle logarithmique. Oui, on est toujours dans cette vague 5 qui n'en finit pas. Oui, on a atteint des extensions, on peut encore en trouver plus haut, mais on a atteint une double extension, qui est une extension de vague 3, et du bas de la 1 au top de la 3, bas de la 4. J'ai reporté les deux extensions ici, et ça convergeait vers les 4100, 4200. Ok, d'accord. On atteint des résistances de momentum, ok, très bien, mais on voit qu'on peut encore éventuellement aller plus haut. C'est pas suffisant. Regardez ici en mensuel, vous aviez eu cette phase de hausse de 10 ans. Il a fallu un an et demi de distribution pour commencer, et un an et demi de distribution avant d'avoir un bear market. Donc là, oui, si on commence à voir fondamentalement des choses, peut-être qu'on va avoir un espèce de long range entre 3000 et 4000, ou entre 3004 et 4004, peut-être une longue phase de distribution. Il y a tellement de facteurs de soutien fondamentaux derrière que... Au pire des cas, je vois un range. Un peu comme le marché avait proposé ici, en top, en sommet de... Voilà, mais pas un bear market. Au stade actuel, fondamentalement, vous l'avez compris, trop de facteurs de soutien. En vrai, il n'y a pas de distribution de package sur le support. On a simplement atteint quelques résistances, ça c'est un fait. Surveillez-moi le ratio cuivre-gold. Attention, j'ai une divergence haussière sur le ratio cuivre-gold, Et ça, ça pourrait être, si ça se confirme, il faut dépasser une résistance, il faut dépasser ça. Mais effectivement, ça peut être un argument technique qui commence à alerter, attention, c'est un argument qui dit faut se poser la question, pour le moment. C'est un argument qui dit faut se poser la question, top cyclique ou top local. Et on ne peut pas l'utiliser davantage pour le moment, c'est l'actuel. Alors l'argent, forcément, l'argent sera tributaire de l'or. Alors, il y a un ratio argent-or, ça je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, le ratio silver-gold, d'ailleurs qu'on peut regarder parce que il avait été assez efficace. J'avais pu le ratio silver-gold, je vous montrer à plusieurs reprises. Ah bah voilà, je suis content, on a fait ma target. Voilà. Donc on a fait ma target, ça c'est cette grande phase de surperformance de l'argent. Donc ça permettait de se dire que l'argent rattraperait l'or. Maintenant, on a rejoint cette phase-là, donc ça c'est fait. On est dans cette compression. Tant qu'on est sous cette résistance, l'argent n'ira pas plus haut face à l'or. Donc c'est intéressant de voir qu'on a atteint cette résistance sur le ratio argent-or. Et qu'en même temps, vous avez donc le sommet historique qui a été atteint, celui de 2011, et qui est le même ici que 80. Et si vous prenez par exemple ici le dernier, vous voyez que la fin de la phase haussière, là aussi, on avait eu un mois de rupture. Et surtout, on avait eu la cassure d'un support. Par exemple, ici, regardez comme c'est propre les enseignements du système Ishimoku. On avait cassé le cubo. Là, vous voyez qu'on est très loin de cassure de support. On est très loin de cassure. Mais c'est comme l'or. C'est comme l'or, regardez. Regardez ici à l'époque. Cassure de cubo. Là, on en est très loin. Donc, on peut pas. Alors, pour l'instant, l'argent n'a pas cassé son sommet en clôture mensuelle. Il peut effectivement rentrer en range, mais s'il fait une cassure, il ira plus haut. Là, je dirais qu'une résistance a été atteinte, c'est tout ce qu'on a comme argument. Donc, on est obligé de dire top local. On ne peut pas dire plus. Impossible. On peut pas dire plus. Pour résumer, vous avez actuellement, sur les quatre principaux moteurs fondamentaux, aucun, maintenant, ne dit top cyclique. Peut-être le dollar, faut être méfiant, mais les autres, non. Et d'un point de vue technique, vous avez une condition sur trois pour dire top cyclique. Donc, c'est top local. Voilà, ce sera la réponse à la question de cette vidéo. Et bien sûr, semaine après semaine, je continuerai de traiter ce sujet. Merci à tous.
Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets LTD régulée par la SAICEC, Swissquote Bank Europe SA régulée par la CSSF, Swissquote LTD régulée par la FCA, Swissquote Financial Services LTD régulée par la MFSA, Swissquote MEA régulée par la DFSA, Swissquote PTE LTD régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited licenciée par la SFC et Swissquote South Africa LTD supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris, mais sans s'y limiter, actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s'y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.